VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du mardi 21 août 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta tend la main à l'opposition après la confirmation de sa victoire à la présidentielle.
Ebola en République démocratique du Congo, 55 morts. Dans l'Est, le gouvernement décrète la gratuité des soins.
La République centrafricaine est le troisième pays le plus dangereux du monde pour les opérations humanitaires.
En Éthiopie, 171 personnes ont été arrêtées hier dans la région Oromo, en proie à des troubles.
La première dame des États-Unis, Melania Trump, se rendra seule en tournée en Afrique cette année.
En Afghanistan, de nombreuses roquettes ont été tirées sur Kaboul. Des combats sont en cours.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, après sa réélection, le président Ibrahim Boubacar Keïta a placé son deuxième quinquennat sous le signe de la jeunesse et il a appelé ses compatriotes à l'unité et à la cohésion nationale. Dans sa première déclaration après la confirmation de sa victoire, il a dit tendre la main à son jeune frère, Soumaïla Cissé, car le Mali doit pouvoir compter sur toutes ses filles et tous ses fils. Monsieur Keïta a été crédité de 67,16% des voix contre 32,84% pour Monsieur Cissé lors du second tour de la présidentielle du 2 août dernier. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
C'est dans un chapiteau rempli de ses partisans qu'Ibrahim Boubacar Keïta s'est adressé au peuple malien. Ibeka s'interroge sur le faible taux de participation.
Le niveau de participation à cette élection, qui aurait pu être meilleur, nous interpelle tous. Il doit amener, de notre part, acteurs politiques et sociétés civiles, à une réflexion profonde sur l'évolution de nos institutions et de nos pratiques. Tous, chacun en ce qui le concerne, est interpellé. Gravement, cette réflexion devra être conduite de manière large et inclusive. J'en serai le garant.
Le président sortant qui succède à lui-même avant son investiture le 4 septembre prochain tend sa main à tous les enfants du pays.
À mon jeune frère, Soumaïla Cissé, je voudrais tendre la main. Oui, le Mali doit pouvoir compter sur tous ses filles et tous ses fils. La République, sous ma conduite, n'exclura personne.
Ibeka place son deuxième quinquennat sous le signe de la jeunesse et le développement du Mali.
J'ai pris l'engagement de faire de mon prochain mandat, souvent le 4 septembre, le mandat de la jeunesse. Je sais ce que ce pays vouloir. Je consacrerai le principal de notre effort à votre épanouissement, Inch'Allah.
Lors de cette intervention, il a remercié tout le peuple malien pour sa participation à la présidentielle de 2018. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, la dernière épidémie de fièvre hémorragique Ebola a fait 55 morts dans l'Est où le gouvernement a décrété la gratuité des soins pendant 3 mois. 5 nouveaux décès ont été enregistrés à Mabalako-Mangina, près de Beni, l'épicentre de l'épidémie qui touche la province du Nord Kivu, selon le dernier bulletin épidémiologique du ministère de la Santé publié lundi soir. Au total, 96 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 69 confirmés et 27 probables, précise la Direction générale de lutte contre la maladie.
La République centrafricaine est le troisième pays le plus dangereux du monde pour les opérations humanitaires. C'est ce qu'a déclaré la coordonnatrice humanitaire Najat Rojdi dimanche à l'occasion de la célébration en RCA de la Journée internationale de l'aide humanitaire. De Bangui, correspondance de Freeman Sipila.
Selon la coordination des affaires humanitaires, uniquement pour cette première partie de 2018, 6 acteurs humanitaires ont été tués alors qu'ils apportaient de l'assistance aux personnes en détresse. 205 incidents ont directement affecté les humanitaires, soit un incident par jour. Najat Rojdi, coordonnatrice humanitaire en Centrafrique, hausse le ton.
Je veux exprimer ma colère, je veux exprimer mon indignation, je veux condamner fermement ces actes abjects, ces actes lâche, car rien, absolument rien, ne justifie de tuer celui ou celle qui sauve une vie, de tuer celui qui amène la nourriture, de tuer celui ou celle qui soigne. Je condamne, je condamne, je condamne. Stop. Les humanitaires ne sont pas des cibles.
Le gouvernement centrafricain, conscient de la situation que traversent les humanitaires, salue leur courage et leur détermination, appelant les groupes armés à s'abstenir de toute attaque contre ces travailleurs sociaux. Entre 2014 et 2018, au total 29 humanitaires ont déjà perdu leur vie en apportant de l'aide aux personnes dans le besoin en Centrafrique. Cette année, la journée de l'aide humanitaire est célébrée dans le pays autour du slogan « Les civils ne sont pas une cible ». Freeman Sipila, Bangui, VO Afrique.
En Éthiopie, 171 personnes ont été arrêtées hier dans la région Oromo en proie à des troubles. Elles sont accusées d'actions illégales suite à des affrontements ethniques. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Les suspects sont accusés d'incitation à la violence, d'appropriation de terres, de pillage et d'attaque à motivation ethnique, selon Alissou Arega, porte-parole par intérim de l'Oromo. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies affirme que plus de 800 000 personnes ont fui les violences le long de la frontière des régions Oromo et Somalie, dans le sud-est de l'Éthiopie durant le seul mois de juin. Une première vague d'exode avait eu lieu lorsque des combats ont éclaté en avril dans cette zone. La région Oromo a été le théâtre de près de 3 ans de manifestations anti-gouvernementales. L'arrivée en avril d'un Oromo au pouvoir, le premier ministre Abiy Ahmed a fait diminuer les tensions. Il a lancé des réformes politiques, libéré des milliers de prisonniers politiques et contribué à retirer des groupes rebelles d'une liste d'organisations qualifiées de terroristes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La première dame des États-Unis, Melania Trump, a annoncé lundi qu'elle se rendrait seule en tournée en Afrique cette année, sans préciser dans quel pays la mènerait son voyage. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Ce sera mon premier voyage en Afrique et je suis enthousiaste à l'idée de m'instruire sur les questions concernant les enfants sur le continent, tout en m'informant sur sa riche histoire et sa culture, a dit Madame Trump dans un communiqué. La première dame n'a pas donné davantage de précisions, mais selon sa directrice de la communication, Stéphanie Grisham, la Maison-Blanche fournira des détails dans les semaines à venir. Melania Trump, qui a accompagné son mari lors de plusieurs voyages, s'est déjà rendue seule au Canada. « J'ai hâte de mettre en lumière le travail humanitaire et les projets de développement réussis menés dans plusieurs pays africains », a-t-elle ajouté dans le communiqué. Le président américain Donald Trump ne s'est pas encore rendu en Afrique depuis sa prise de fonction et aurait par le passé dénoncé l'immigration en provenance des pays africains. Une polémique sur les termes employés par le président avait suscité des réactions de colère sur le continent. Melania Trump, en prélude à son voyage, a elle affirmé croire que c'est par le biais du dialogue et de l'échange d'idées que nous avons une vraie opportunité d'apprendre les uns des autres.
Toujours à Washington, le président Donald Trump a qualifié de coalition des extrémistes des frontières ouvertes ses adversaires au Congrès, ainsi que les officiels qui, au niveau des localités et des États, s'opposent à son agenda de contrôle de l'immigration. Intervenant hier à la Maison-Blanche, M. Trump a accusé ses opposants de lancer un assaut sans précédent contre les agents des forces de l'ordre qui assurent la protection des frontières américaines. « Rien que de grandes gueules », s'est-il exclamé. C'était à l'occasion d'une cérémonie honorant des officiels pour leur bravoure dans le combat contre les trafiquants, les cartels de drogue et les organisations criminelles transnationales.
De nombreuses roquettes ont été tirées sur Kaboul et des combats se déroulaient dans la ville ce matin, alors que l'Afghanistan attendait encore une réponse des talibans à l'offre de cessez-le-feu du président Ashraf Ghani. Au moins une dizaine de roquettes sont tombées sur la capitale, a conté un journaliste de l'AFP. Un autre reporter a vu des hélicoptères militaires tirés à proximité d'une mosquée de la vieille ville de Kaboul, ainsi qu'une forte présence sécuritaire près du stade de la capitale. Un groupe de terroristes a pris le contrôle d'un bâtiment de la vieille ville et tiré plusieurs roquettes en direction de Kaboul, a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur à l'AFP. 2 personnes ont été blessées. Les forces de sécurité sont en train de combattre les terroristes, a-t-il ajouté.
Renforcement de la coopération en Syrie entre les États-Unis et la Turquie, malgré la crise qui caractérise actuellement leurs relations bilatérales. Selon l'armée turque, ces 2 alliés au sein de l'OTAN vont bientôt avoir des patrouilles communes dans la région septentrionale de Manbij. La tension a prévalu entre Washington et Ankara depuis que les forces démocratiques syriennes ont chassé de la ville de Manbij les djihadistes du groupe État islamique. Les Turcs considèrent une bonne partie des FDS, c'est-à-dire les miliciens kurdes YPG que soutient Washington, comme des terroristes liés au PKK, une organisation que les États-Unis et l'Union européenne qualifient aussi de terroriste. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Au Maroc, le roi Mohamed VI a nommé un nouveau ministre de l'économie et des finances. Le monarque veut changer la courbe de la dette publique. La Cour des comptes pointait du doigt récemment son niveau élevé et son rythme croissant. Le roi Mohamed VI avait appelé à des mesures sociales d'urgence dans un discours marquant le 19e anniversaire de son accession au trône. La Zambie veut relancer sa compagnie aérienne nationale, la Zambia Airways. La relance des activités du transporteur aérien devrait coûter environ 30 millions de dollars. La compagnie Ethiopian Airlines va débourser la majeure partie du financement et dispose d'une prise de participation de 45% dans le capital de la Zambia Airways. D'ici à 2028, le transporteur zambien devrait disposer d'une flotte d'environ 12 aéronefs. La Turquie a déposé plainte devant l'OMC pour contester les droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium. Ankara juge ces mesures incompatibles avec un certain nombre de dispositions de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes et de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. De nombreux membres ont déjà saisi l'OMC pour contester les taxes américaines, notamment l'Union européenne, la Chine, la Russie, la Suisse, le Mexique et le Canada.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Nigeria cède aux demandes de la FIFA.
Oui, la FIFA avait donné un ultimatum au gouvernement du Nigeria pour restituer le siège de la Fédération de football au bureau élu en 2014. Les instances gouvernementales ont donc attendu le dernier moment hier pour reconnaître l'élection d'Amadou Melvin Pinnick et éviter ainsi toute sanction. On se souvient que la semaine dernière, l'instance dirigeante du football mondial avait déclaré avoir été informée de la crise au sein de la Fédération nigériane et l'a considérée comme une ingérence. Le Nigeria s'exposait à des sanctions si la situation persistait.
Mohamed Salah en piste pour le titre de meilleur joueur UEFA de la saison.
Même si son mondial en Russie s'est arrêté prématurément avec les 3 défaites de l'Égypte au premier tour, Mohamed Salah reste dans l'actualité. Le pharaon est dans la liste des 3 joueurs finalistes pour le titre de joueur UEFA de l'année 2018. Finaliste de la Ligue des Champions, sa saison de rêve avec Liverpool lui vaut cette nomination. Tout comme Luka Modric, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Et finaliste malheureux, bien évidemment, de la Coupe du Monde 2018 avec la Croatie. Cristiano Ronaldo, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, est favori à sa propre succession.
Luka Modric, rappelé en sélection croate.
Oui, le meilleur joueur de la Coupe du Monde en Russie et son complice au milieu de terrain, Ivan Rakitic, figure dans le groupe de la Croatie pour 2 matchs prévus en septembre contre le Portugal et l'Espagne.
Barrage aller de la Ligue des Champions en Europe.
Ce soir, le Benfica reçoit le PAOK Salonique, le Bate Borisov face au PSV Eindhoven et puis l'Étoile Rouge de Belgrade contre Salzbourg. Demain, Ajax Dynamo Kiev, Vidi contre l'AEK Athènes et les Young Boys de Berne face au Dynamo Zagreb.
Décoration à venir pour Claude Leroy et Arsène Wenger.
Ah ouais, les entraîneurs français seront décorés vendredi par le président du Liberia, George Weah, dont ils avaient lancé la carrière de footballeur en Europe. L'actuel sélectionneur du Togo avait rencontré le jeune George Weah lorsqu'il officiait à la tête de la sélection camerounaise. Il avait ensuite contacté Arsène Wenger. Ce dernier avait recruté George Weah en 1988 à Monaco. L'attaquant avait ensuite poursuivi sa carrière au PSG, au Milan AC et il avait obtenu le Ballon d'Or en 1995, le seul joueur africain à avoir glané cette distinction.
Le Tour du Faso passera par le Ghana.
Et oui, la 31e édition du Tour du Faso qui s'élancera le 26 octobre prochain fera une incursion au Ghana. Le passage aura lieu lors de la 2e étape longue de 155 km entre Manga et la ville ghanéenne de Bolgatanga. Autre nouveauté, le retour de l'épreuve du contre-la-montre par équipe. Elle sera disputée sur l'étape Sabukudugu sur une distance de 31 km. Au total, 8 régions sur les 13 du pays seront desservies. On rappelle que la 30e édition l'année dernière avait été remportée par le Marocain Salah Eddine Mraouni.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Ghana a commencé hier une semaine de deuil national en hommage à Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies et prix Nobel de la paix. C'est éteint, comme vous le savez, samedi dernier à Genève. Eric Manirakiza s'est entretenu hier, dans votre programme interactif, à votre avis, avec l'un de ses amis personnels, camarades de classe et collègues, l'ancien ministre ivoirien des Affaires étrangères, Amara Essi.
Kofi Annan, on s'est connu à Genève, à l'Institut de haute études internationales. On s'est fréquenté et je crois que ce que je retiens de lui, c'est que vraiment il est fidèle en amitié. Je crois qu'on a toujours déjeuné avec lui en privé à New York et vraiment c'est quelqu'un qui est très ouvert. C'est quelqu'un qui a un attachement sans borne pour son continent d'Afrique. Et quand j'ai été élu secrétaire général de l'OIA et avant de mettre en place les structures, je suis allé le voir pour dire, écoute Kofi, j'ai une tâche, mais ce n'est pas ma tâche. C'est la tâche de tous les Africains qui ont une expérience des relations internationales, comme toi. Et je voudrais qu'ensemble, on réfléchisse comment on va transférer l'OIA en Union africaine, capable de rivaliser avec toutes les grandes institutions internationales. Donc c'est ainsi que bon, on a eu à collaborer pour que naisse l'Union africaine. En tout cas, il a beaucoup contribué à cette réflexion et surtout, le résultat est là aujourd'hui. Nous avons une institution qui est capable aujourd'hui de figurer en bonne place dans le combat international.
C'est quelqu'un qui a eu une carrière exceptionnelle.
Oui, parce que vous savez, ce que on ne dit pas assez, c'est que bon, il avait quitté le Ghana à la suite du coup d'État au Ghana qui avait renversé Nkrumah et donc c'est quelqu'un qui avait une fibre politique. Mais je crois qu'il a été beaucoup traumatisé par la chute de Nkrumah et donc il est parti donc en Europe. Bon, il a fait beaucoup d'études un peu partout, comme vous savez, il a été aux États-Unis, ensuite il a été à Genève. Donc en fin de compte, il a une approche pluridisciplinaire de toutes les questions qu'il traite et donc vraiment c'est quelqu'un d'exceptionnel.
Comment Kofi Annan devient secrétaire général des Nations Unies? Ses ambitions, est-ce qu'il vous en avait parlé avant?
J'ai été président de l'Assemblée générale, la 41e session de l'Assemblée générale. Mais disons qu'on faisait des analyses souvent, puisque moi j'étais d'abord ambassadeur, lui était au secrétariat, et donc on faisait des analyses sur la marche des Nations Unies. Moi vu du côté des ambassadeurs, lui vu du côté du personnel des Nations Unies. Donc c'était un débat, disons, d'information réciproque. Moi, ça me servait, lui, ça lui servait aussi. Donc, en fin de compte, je crois qu'on était complémentaires dans les analyses qu'on faisait. Chacun savait à peu près, dans son groupe, quel était le problème et comment on pouvait harmoniser nos points de vue. Parce que quand ils avaient des réformes quelquefois très difficiles, bon, ils me les envoyaient pour que je les passe, passer par une résolution, en concertation avec les Africains, parce que quelquefois, on s'est dit, bon, c'est un Africain, il faut l'aider absolument, parce que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien de l'Afrique. Et il était très attaché à l'Afrique. Et un aspect que les gens ne voient pas, c'est que quand il est secrétaire général, il avait un souci préoccupant, c'était le continent africain. Il était meurtri quand il y a eu l'affaire du Rwanda. Parce qu'en tant qu'Africain, en fait, son ambition, c'est que vraiment, en tant que secrétaire général, que vraiment l'Afrique n'ait pas de problème. Mais ce n'était pas aussi aisé. Mais c'est quelqu'un qui a été vraiment frustré et traumatisé parce qu'il voyait des solutions et il ne pouvait pas avoir des résolutions du Conseil de sécurité. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu les deux Africains, Boutros Ghali et Kofi Annan. J'ai vu les problèmes qui ont été créés avec Boutros Ghali par son tempérament, par son caractère. Mais je crois que les Nations Unies n'ont jamais connu une période aussi difficile à gérer qu'avec Boutros Ghali. C'était le pharaon, comme on l'appelle le pharaon. À son départ, Kofi a dû remettre tout en ordre et ça n'a pas été facile parce qu'il y avait beaucoup de frustration, surtout du côté des Américains qui étaient quand même les premiers bailleurs des Nations Unies.
Amara Essi, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, il a été joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Nord Kivu, en République démocratique du Congo, réouverture du site minier de Rubaya à Masisi. Il était fermé depuis 3 mois suite à un conflit opposant les creuseurs artisanaux à la société minière de Binzunzu dans ce territoire riche en coltan. un minerai très important dans la fabrication d'appareils électroniques. De Goma, capitale du Nord Kivu, reportage du correspondant de VOA Afrique, Charlie Kasereka.
La cité minière de Rubaya est située à environ 60 km à l'ouest de la ville de Goma, sur une route érodée de Massissi. Dans cette région se développe l'élevage des vaches et la production de fromage. Mais au fil des années, les carrés miniers ont occupé les champs et envoyé presque tous les agriculteurs dans l'exploitation artisanale des minerais. Ici, toutes les activités tournent autour des mines, commerce, santé et même les transports en commun. Les 3 mois de fermeture ont été longs pour tout le monde dans cette cité d'environ 5 000 habitants.
Nous sommes les plus heureux en voyant les autorités venir relancer les activités minières ici à Rubaya. Avec les activités, nos enfants auront encore à manger. Pendant la période de la fermeture, il y a eu une grande insécurité ici à Rubaya.
Où les taximan moto sur l'axe Goma-Rubaya, toute cette période de fermeture, nous avons chômé. Nous sommes contents de la réouverture car même la nourriture était introuvable ici à Rubaya.
En ces jours, 1544 creusers artisanaux sont enregistrés. Autour d'eux, plus de 10 000 personnes dépendent de cette extraction artisanale des minerais. La réouverture, c'est aussi une satisfaction pour les responsables de ces creusers. Le député Norbert Seninga, responsable de la coopérative des creusers artisanaux.
Cette crise n'a pas frappé non seulement la population de Rubaya, mais aussi la population de Goma et je dirais de la province tout entière. Et donc c'est un sentiment de satisfaction parce que le gouverneur vient de l'ouvrir officiellement.
La cité, comme tous les territoires de Massissi, est fréquemment troublée par des attaques de multiples milices armées et souvent des conflits interethniques qui sont enregistrés. Circe, le gouverneur des provinces, se martèle sur la non-militarisation de ces sites miniers. Gilem Paluku, gouverneur du Nord Kivu.
Tout creuseur qui devra travailler dans tous les sites devra préalablement se faire identifier. Il est formellement interdit aux éléments des forces armées de se retrouver dans les sites d'exploitation minière. Mais avec la reprise de l'exploitation minière, nous pensons que l'argent va encore circuler de nouveau.
Les conflits résolus aujourd'hui est né sur des soupçons selon lesquels les creuseurs artisanaux vendaient frauduleusement des minerais à d'autres sociétés n'ayant pas de droits sur ces sites de Rubaya en dehors de la société minière de Bisunzu SMB. Dans un nouvel accord entre SMB et ses creuseurs, la coopérative est appelée à vendre à la SMB la totalité de la production extraite de ces sites. Pour rappel, annuellement, au moins 1000 tonnes de coltan brut sont produites dans la mine de Bisunzu à Rubaya et exportées vers l'étranger. Charles Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la riposte contre l'épidémie d'Ebola en RDC.
Une campagne de vaccination ciblée se déroule actuellement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Des messages de sensibilisation sont aussi diffusés pour aider à la prévention.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Baten Joloko, coordonnateur de la riposte contre l'épidémie. Il nous parlera des enjeux et du déroulement de cette campagne de vaccination.
Nous écouterons aussi Teli Dibi, chargé de communication à l'UNICEF. Avec lui, nous évoquerons les séances d'information organisées en faveur des populations.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Stéphane Bouguma est un jeune Burkinabé avec plus de 13 ans d'expérience dans l'industrie agroalimentaire en Afrique, en Europe et en Asie. Sa passion pour la recherche de solutions adaptées au contexte économique technologique africain et aussi ses efforts dans la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes lui ont valu cette année une sélection dans le programme YALI, Young African Leaders Initiative, lancé par l'ancien président Barack Obama en 2013 et qui s'adresse exclusivement aux jeunes leaders africains. Arzuma Compaoré l'a rencontré lors de son passage à Washington.
Je m'appelle Stéphane Bouguma, je suis le directeur général de Umao SARL, qui est une entreprise dans l'agroalimentaire au Burkina Faso. Nous produisons des boissons alcoolisées, notamment le dolo, comme on dit, la bière de sorgho, qui est très bien connue au Burkina, mais avec un packaging moderne en bouteille et en pression. Je suis actuellement aux États-Unis dans le cadre du YALI 2018. J'étais à University of Texas à Austin. Ça a vraiment été une rencontre humaine très intéressante parce que on était avec 25 autres pays africains. Pour chaque personne dans la salle, il y avait environ 600 à 700 personnes qui ont candidaté. Donc le taux de succès était plus élevé que celui d'Harvard. Ça a été vraiment une bonne école de formation, aussi bien personnelle que professionnelle. Être entrepreneur, c'est comme quelqu'un dirait, être fatigué de travailler 40 heures par semaine pour un salaire et travailler 100 heures pour presque rien. Il faut pas compter ses heures et puis bon, avoir une vision pour soi-même, une vision pour son pays aussi. Donc c'est une passion vraiment, c'est avant tout être passionné par ce qu'on fait. Moi, j'étais passionné par l'agroalimentaire, le côté transformation, notamment les boissons. Il faut à un moment donné vouloir être différent, ne pas être satisfait de ce qu'on a. Alors, si on veut toujours s'asseoir dire, oui, c'est difficile, on nous aime pas, laisser d'autres personnes venir et prendre les meilleures places, c'est un choix. Mais si vraiment, on veut vraiment se développer aussi bien personnellement qu'au niveau communautaire, il faut juste se retrousser les manches. Et comme je dis aujourd'hui, l'Afrique est le seul continent où il y a encore de la place pour tout le monde. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser l'or. Le programme était tellement intense qu'à un moment donné, il fallait juste être comme une éponge. Prendre le maximum d'informations parce que c'était juste une fois dans la vie. Et après maintenant, c'est reprendre maintenant, prendre le temps de redigérer ce qu'on a appris et pouvoir l'adapter, le mettre en pratique au quotidien, aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Sénégal, preuve que la pratique des activités sportives est chose courante dans ce pays, la corniche ouest de Dakar attire quotidiennement de nombreuses personnes qui viennent pour s'adonner aux exercices physiques. Notre envoyé spécial dans la capitale sénégalaise, Jacques Aristide, s'est rendu sur place. Son reportage.
Ils sont jeunes ou d'un certain âge, des garçons, des filles, des hommes et des femmes. Dès l'après-midi, ils prennent d'assaut la corniche ouest de la capitale. Ils courent, ils jouent au foot, ils s'exercent, ils solidifient leurs muscles alors que certains sont déjà bien sculptés. Bref, les Dakarois profitent pleinement de ce parcours sportif qui d'ailleurs dispose d'un énorme bonus, la plage de Fan surplombant l'océan.
Je ne porte pas de vêtements sportifs, pas de chaussures appropriées non plus, mais je vais quand même tenter d'aller à la rencontre de ces Dakarois fous de sport, si j'arrive à les rattraper bien évidemment.
La santé, d'abord, il faut la préserver.
J'en profite pour venir ici pour me déstresser un peu et de me libérer un peu de l'esprit. C'est pourquoi je viens tout le temps ici pour me faire du sport.
À mon âge, il faut faire de la marche. Donc je profite de cet espace idéal pour marcher, profiter de ça. Et ça permet également de se rafraîchir la mémoire, de pouvoir avoir des contacts avec la jeunesse. Vraiment, ça fait un très grand plaisir.
Il y a certains jours, ici c'est plein, donc il n'y a pas assez de place pour que les gens pratiquent des différents jeux. Parce que bon, l'État doit faire pour essayer de créer un autre espace différent d'ici. Bon.
Petit détour à la mairie de Dakar pour faire le point sur cette infrastructure sportive et son financement. Souhamel Wadini, adjointe maire de la ville.
Avec les hommes d'affaires chinois installés à Dakar, avec le concours de l'ambassade de la Chine. Donc c'est eux qui sont venus vers nous, qui nous ont fait cette proposition. Vous voyez tout ce qu'il y a sur la corniche, c'est des centaines de millions.
Retour sur la corniche, pratiquement même influence à la tombée de la nuit. Il fait moins chaud et beaucoup en profitent pour continuer à suer à grosses gouttes.
1, 2, 3, on y va, 1, 1 3.
Tout le monde doit s'entraîner. Parce que si on ne s'entraîne pas, on peut avoir des maladies très dangereuses. Surtout le cardiaque, les maladies vasculaires. Donc si tu t'entraînes, tu peux avoir la chance de ne pas tomber sur ce genre de maladies. Je prie pour que tout le monde s'entraîne.
D'autres Dakarois seront de retour ici sur cette corniche de la capitale sénégalaise, dès l'aube. De Dakar au Sénégal, Jacques Aristide pour VOA Afrique.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.